talmudique. Novembre 1918, 11 heures précises, toutes les cloches de France sonnent à la volée. Le son des clairons résonne sur le front et les airs de « Cessez le feu, levez-vous au drapeau » traversent tous les villages et toutes les campagnes. Un armistice a été conclu le matin entre les Alliés et l'Allemagne et pour la première fois depuis 4 années, les soldats de l'armée française et de l'armée allemande découvrent qu'il est possible de se faire face sans s'entretuer. La guerre laisse derrière elle des millions de morts et de mutilés. Les survivants veulent croire que cette guerre qui s'achève restera la dernière de l'histoire, la der des der. Ils ne savaient pas que 21 ans plus tard commencerait une seconde guerre mondiale, tout aussi terrible, mais différemment, deux guerres liées, mais dont le souvenir de la dernière risque parfois d'occulter le souvenir de la première. Occultation préjudiciable car ne permettant plus de comprendre les causalités et l'enchaînement des idées, des événements et des passions pour le mal mais aussi pour le bien. La langue hébraïque possède au moins trois verbes différents pour exprimer l'instance mémorielle des individus et des sociétés. Le plus connu est zachar, se souvenir, et son impératif zachor que l'on peut traduire par souviens-toi. Il y a aussi le verbe shamar et son impératif shamor qui veut dire littéralement garde au sens de garde en mémoire, préserve, protège. Et il existe un troisième terme, pakad, qui a le sens de se souvenir de quelqu'un, se souvenir d'une promesse faite à quelqu'un pour ouvrir un chemin qui pourrait avoir été fermé par l'oubli. Les maîtres du Talmud expliquent l'usage des deux verbes shamor et zachor de la façon suivante. Shamor balev ve zachor bapé. Shamor se fait dans le cœur, alors que Zachor passe par la bouche, c'est-à-dire par la parole. La Shemira est un travail intérieur, intime, personnel, alors que la Zechira est une expression externe de cette mémoire, une expression partagée de faire circuler la mémoire, de faire œuvre d'histoire et peut-être de musée. C'est l'action nécessaire, celle qui prête main forte au sentiment intérieur qui disparaîtra le jour où les individus qui le portent disparaîtront ou que la force de l'oubli aura été plus forte que celle du souvenir. Une façon aussi de rappeler que Yad Vashem signifie la main et le nom. La mémoire est un animal difficile à dompter. Comme dit le Talmud au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania après la destruction du temple, cité par Yosef Haïm Yerushalmi, « Ne pas se souvenir, nous ne le pouvons. Mais trop se souvenir, nous ne le pouvons pas non plus. » Difficulté de la juste mémoire aujourd'hui, car nous sommes entrés dans l'ère des derniers témoins. Nous sommes à la fin de cette époque de transition très fragile et très courte de ceux qui auront connu les deux époques, celle de la voix vive et celle de la voix qui s'est tue. Sur nos épaules, nous le savons, nous le sentons, repose maintenant l'édification d'un nouveau conservatoire de la mémoire, d'une nouvelle maison du souvenir, selon l'expression du romancier Philippe David. Véritable mutation sociologique qui touche à l'histoire, la philosophie, la politique, le droit et la littérature. De 1939 à 1944, inspirés par des hommes de foi, les habitants du Chambon-sur-Lignon, essentiellement protestants, entreprennent de cacher des juifs, notamment de nombreux enfants, menacés de déportation et les accueillent dans leurs maisons et dans les fermes alentour. Emmanuel Dain, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Dain, vous êtes psychologue, clinicien, psychanalyste et médiateur de justice, quelqu'un donc qui se confronte tous les jours de façon essentielle dans sa pratique à cette question de la mémoire, et vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé « Le village des justes, le Chambon-sur-Lignon de 1939 à nos jours », et vous insistez justement sur le fait que ce n'est pas un livre d'histoire, mais un livre d'urgence, un livre d'ici à maintenant, c'est votre expression. Qu'entendez-vous par là, Emmanuel Dain ?
Alors, sur le fait que ce soit pas un livre d'histoire, c'est assez simple, c'est parce que je ne suis pas historien et que le livre ne répond pas aux critères épistémologiques de la matière histoire, ça c'est une première chose, puisque c'est plutôt un livre de journaliste, on dirait, ça c'est une première chose. Sur le fait que ce soit un livre d'urgence, c'est évidemment en lien avec ce que vous veniez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement les dernières voix sont en train de se taire, les derniers témoins directs de cette histoire qui s'est déroulée pendant la Deuxième Guerre mondiale sont en train de s'éteindre et qu'effectivement c'était un peu maintenant ou jamais. Quant au fait que ce soit, comme effectivement je l'ai écrit, un livre d'ici et maintenant, c'est tout simplement parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, sur les aspects mémoriels, la façon de décrire les mots qui servent à décrire le mal me semble un peu usé, faute d'avoir été trop utilisé, et il m'a paru intéressant effectivement d'entretenir la mémoire par les mots du bien, en fait. Or, cette histoire est, entre autres choses, une histoire du bien. Et ça m'a semblé être potentiellement beaucoup plus percutant qu'une énième succession de mots du mal.
Alors, l'histoire du bien, on va y venir, mais si j'ai articulé la Première Guerre mondiale et la Seconde, ce n'est pas seulement parce que nous sommes le 11 novembre, mais parce que l'une ne se pense pas sans l'autre. Les hommes adultes de la Seconde sont les enfants et les adolescents de la Première, et pour beaucoup, leur esprit s'est forgé à ce moment-là. Je pense à André Trocmé, une façon de souligner que le miracle du Chambon est en fait le résultat d'un ensemble de causes extrêmement précises qui, si elles n'expliquent pas tout, permettent de comprendre beaucoup. Apparaissent aussi les figures majeures de Louis Comte et de Charles Guillon, c'est-à-dire que pour nous parler du Chambon-sur-Lignon, il faut connaître plusieurs figures. Et d'abord, qu'est-ce que c'est justement ce Chambon-sur-Lignon qui est l'objet de ce livre ?
Alors, le Chambon-sur-Lignon, c'est d'abord, je crois que c'est un des titres d'un de mes chapitres, c'est un terrain favorable. C'est-à-dire que c'est un terrain favorable à l'accueil par le fait qu'il y a une imprégnation protestante qui est très forte, puisque le village et la région sont à 97% protestants. Alors, ce qui est une grande particularité dans le paysage historique et géographique français. Et donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a effectivement une figure tutélaire qui s'appelle André Trocmé, donc le pasteur Trocmé, qui est, pour des raisons qui sont évidemment liées à la Première Guerre mondiale, complètement imprégné et habité par les idéaux pacifistes. Et ces idéaux pacifistes vont être très déterminants lorsqu'il arrive au Chambon-sur-Lignon pour embarquer toute cette population dans ce qu'on a appelé cette conspiration du bien, qui a consisté à organiser le refuge et le recueil de plusieurs milliers de personnes pendant 4 années.
Alors, organisé parce que vous dites terrain favorable, parce que c'est un lieu où il y avait déjà des structures d'accueil de par la volonté d'autres personnes comme Louis Comte, qui avait voulu que les enfants, les jeunes enfants, puissent venir se reposer, les jeunes enfants de la région qui travaillaient dans les mines à la fin du 19e, début du 20e, puissent se reposer pendant les 2 mois d'été, et donc avaient construit sur ce plateau à 1000 mètres d'altitude des structures d'accueil qui ont été très utiles une fois que on en a eu besoin pour d'autres raisons.
Il y a une tradition d'accueil qui est liée effectivement à cette histoire que vous expliquez. Et puis, il y a tout simplement des infrastructures qui sont des homes d'enfants, des hôtels, des pensions de famille, etc., qui sont évidemment tout à fait précieuses pour pouvoir accueillir du monde. Je précise que ça ne commence pas en 1940 avec les Juifs, mais que ça commence dès 1938-39 avec l'accueil des réfugiés espagnols. Donc, il y a une tradition vraiment ancrée d'accueil sur le plateau Vivarais-Lignon.
Qui est lié aussi de manière forte au protestantisme.
Incontestablement, c'est une clé pour comprendre ce qui s'est passé, puisque effectivement, c'est tout à fait spécifique d'avoir cette enclave protestante perdue et isolée. L'endroit est très très isolé, très enclavé. Bon, tout ça est la conséquence du désert et de la révocation de l'édit de Nantes. Ça nous ramènerait loin, mais on a évidemment la clé majeure pour comprendre l'accueil des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est effectivement la culture protestante et évidemment ce qu'on pourrait appeler les affinités électives entre le protestantisme et le judaïsme. Effectivement, les darbistes, puisqu'il y a 30% de darbistes parmi la population du Chambon, lorsque les Juifs arrivent et qu'il faut les héberger, les accueillir dans les fermes, etc., on les appelle les Anciens Testaments. 3 anciens Nouveaux Testaments sont arrivés, il faut les disperser ici ou là.
Alors c'est drôle parce que vous avez dit 3 anciens Nouveaux Testaments.
Anciens Testaments.
Oui,
effectivement.
Alors, c'est intéressant parce que ce que vous voulez souligner par là, en tout cas moi cette anecdote que j'ai lue dans votre livre m'a beaucoup plu. Appeler un juif un Ancien Testament, c'est d'emblée donner, souligner cette relation fondamentale au livre. Et ces darbistes, donc, qui sont une petite frange, on pourrait dire, du protestantisme, sont comme les protestants d'ailleurs, très très tournés vers la lecture du texte. Alors le mot qui s'est imposé à moi en suivant votre récit et vos réflexions est le mot pluriel. J'ai compris que nous étions devant un pluriel de mémoire, un pluriel d'histoire, un pluriel des idéologies, un pluriel des résistances, un pluriel des silences et tout simplement un pluriel des Chambon-sur-Lignon. Ces différents pluriels se croisent, s'opposent, se complètent, s'expliquent mutuellement, mais ne nous laissent pas indifférents. Parler de l'un est déjà une façon de parler aussi des autres. Le pluriel des résistances en est cependant une porte privilégiée, un pluriel où se cristallisent particulièrement les oppositions et les frictions, Emmanuel Dain.
En fait, effectivement, vous parlez de résistance plurielle, puisqu'il y a la résistance spirituelle, la résistance civile et puis la résistance du maquis. Il y a eu clairement, historiquement, une ligne de fracture entre la résistance pacifiste, la résistance civile et la résistance du maquis, dont on retrouve trace encore aujourd'hui parmi les gens qui ont été les protagonistes de cette affaire ou leurs descendants. Ça a été très compliqué, c'est-à-dire que la résistance spirituelle a beaucoup occulté la résistance du maquis. Voilà. La mémoire du maquis s'en est trouvée meurtrie. Il y a d'ailleurs un des résistants du maquis du plateau Villars-et-Lignon qui a écrit un livre qui s'appelle effectivement Mémoire trahie, mémoire meurtrie. Vous voyez, ça dit beaucoup de choses là-dessus. La ligne de fracture, elle était le pacifisme. Est-ce qu'on prend les armes ou est-ce qu'on les prend pas? Et cette ligne de fracture, elle s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, les conflits mémoriels portent sur cette brisure qui a eu lieu pendant la guerre avec le pasteur Trancmé, son collègue le pasteur Tess, qui était virulemment opposé à ce que les jeunes du village prennent les armes et prennent le maquis.
Mais en même temps, vous le dites très bien, cette fracture non pas peut être surmontée, mais doit être surmontée dans la mesure où si on regarde les faits eux-mêmes, même les pacifistes n'auraient pas pu continuer à survivre sans le maquis armé.
Moi, il m'a semblé, si vous voulez, avec un regard extérieur à tout ça, il m'a semblé qu'effectivement, tous ces gens-là œuvraient exactement pour la même cause et que cette cause, ça s'appelait la résistance. Bon. En découvrant tous les aspects conflictuels dans cette mémoire, je me suis dit, un des intérêts du livre, je sais pas si on peut parler de mission, mais en tout cas un des intérêts du livre est peut-être d'essayer de réconcilier un peu ces mémoires. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je sais pas si j'y parviendrai. Ça, ce sera au protagoniste de le dire. Mais effectivement, c'est très troublant de voir que ce qui, vu de l'extérieur, peut apparaître comme une seule et même chose, avec effectivement une grande complémentarité, puisque la résistance armée était inéluctable, incontestablement, est apparue pour les protagonistes au moment où les faits se sont déroulés comme étant quelque chose de profondément antagoniste.
Vous donnez un exemple extrêmement parlant, je pense, pour montrer comment un même événement, une même personnalité peut être perçue en fonction des camps de manière complètement opposée. Je pense à ce chef de la Wehrmacht, je crois, Schemling, si mes souvenirs sont bons. J'aimerais que vous en parliez parce que c'est vraiment intéressant de montrer comment la même figure, pour certains, a été considérée comme positive d'une certaine manière et pour d'autres comme négative.
C'est-à-dire que, si vous voulez, cette histoire repose sur un manque d'informations historiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'informations historiques, et là je parle vraiment d'histoire, on n'a pas d'informations historiques fiables pour savoir si ce type a été complaisant avec le refuge du Chambon-sur-Lignon, parce qu'il était responsable de la zone de la Haute-Loire, ou si au contraire il a fait son travail comme il devait le faire. Bon, il se fait que deux personnages tutélaires, eux aussi, du Chambon-sur-Lignon, le pasteur Trocmé d'un côté, pacifiste, et un médecin qui s'appelle le docteur Le Forestier, qui a été arrêté et qui est passé entre les mains de ce major Schmeling, ont eu évidemment une vision totalement différente sur le bonhomme. Bon, dans la mesure où l'histoire ne peut pas être tranchée par l'histoire, eh bien il reste ces différences de perception entre les tenants du pacifisme qui ont penser que ce militaire allemand avait été plutôt complaisant en fait avec le refuge des Juifs au Chambon-sur-Lignon, et d'autres qui considèrent qu'il était un Allemand en période d'occupation comme les autres, avec toute la brutalité qui était inhérente à sa fonction.
C'est-à-dire que pour les résistants armés, ce militaire avait pour fonction de les éliminer, donc pour eux ce militaire était un ennemi. Et lui-même, ce militaire, se disait « je n'ai pour fonction que d'éliminer la résistance. Ma fonction n'est pas de m'occuper des juifs qui sont réfugiés. Et donc, c'est peut-être là la raison pour laquelle il ne s'en est pas pris aux juifs réfugiés.
Tout à fait. Lui, sa mission était de s'opposer à la résistance. C'est une mission de, on appellerait ça maintenant, de maintien de l'ordre. Finalement, quoi qu'il ait pu penser de ce refuge, il n'avait pas forcément vocation à s'y opposer. Et accessoirement, il n'avait pas forcément les moyens logistiques pour s'y opposer non plus.
Alors, vous dites que le Chambon sur Lignon n'est pas unique. Et vous avez cette formule que j'aime beaucoup, le Chambon n'est pas unique mais emblématique. Et je me suis posé la question, emblématique de quoi, Emmanuel Dain ?
Alors, il n'est pas unique puisqu'effectivement, l'histoire locale, les histoires locales regorgent d'endroits dans lesquels on a pu protéger et sauver des réfugiés juifs un peu partout en France. Il est quand même, le Chambon-sur-Lignon, enfin l'histoire de Chambon-sur-Lignon est quand même unique dans le sens où le sauvetage s'est organisé pendant 4 longues années, alors que généralement ça a été des expériences qui étaient plus ponctuelles, donc pendant 4 années, et puis surtout les gens du Chambon et leurs réseaux internationaux on pourrait dire industrialisé le processus, puisqu'on est de façon avérée à 3500 personnes qui ont été hébergées ou qui ont transité par le Chambon avec des réseaux internationaux, notamment en Suisse. Donc on est face à quelque chose qui est quand même une machine à sauver des juifs. C'est assez unique. Sur l'aspect emblématique, il faut dire qu'il y a, à cause de ses spécificités, quelque chose de, une avance mémorielle, on va dire, au Chambon-sur-Lignon. C'est-à-dire que le Chambon-sur-Lignon est devenu l'emblème de cette résistance, enfin, du sauvetage des juifs.
Alors, c'est important de le dire dans ce sens-là, emblématique, et on parle beaucoup du Chambon-sur-Lignon. Vous insistez pour dire que c'est un mot, justement, qui regroupe d'autres lieux, mais déjà sur le plateau même du Chambon, il y a d'autres communes qui sont incluses dans ce terme. Est-ce que par respect pour toutes les autres communes, on ne devrait pas toutes les énumérer et pas simplement dire le Chambon-sur-Lignon ?
C'est une facilité de dire le Chambon-sur-Lignon, puisqu'en fait c'est le Chambon-sur-Lignon et les communes environnantes du plateau Vivarais-Lignon, absolument. D'ailleurs, le titre de Yad Vashem a été attribué au Chambon-sur-Lignon et aux communes environnantes. Et il s'est passé dans les petits villages autour du Chambon exactement la même chose que Chambon-sur-Lignon. Simplement, il fallait bien une tête de pont. Et cette tête de pont était d'autant plus facilitée au Chambon-sur-Lignon qu'il y avait ce personnage éminemment charismatique qui s'appelle André Trocmé.
André Trocmé, il faut préciser, je crois que c'est important, qu'il était secondé non seulement par ces autres personnages que vous avez cités, le pasteur Tess et d'autres personnes, mais aussi par sa femme Magda.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même l'impression, puisque moi ça fait 2 ans que je vis avec eux deux, hein, qu'il y avait quand même dans ce couple visiblement très explosif, qui s'engueulait beaucoup, un énorme charisme de la part de ces deux personnes. Elle était une Italienne très volcanique, lui était lui-même extraverti et apparemment très charismatique. Donc il y a effectivement ça a correspondu un peu à la tête d'affiche de du plateau Vivarais-Lignon, et ça explique pourquoi le Chambon-sur-Lignon est aujourd'hui le nom qui porte cette histoire.
Vous dansez le twist ?
Non, je suis pas à la mode.
Ben heureusement, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait ?
Vous ne présentez pas vos amis ?
Si. Lily, qui vient d'Amsterdam, et Rose, qui vient de Montréal.
Moi, je suis de Paris.
On s'est connus dans des circonstances.
Je n'ai pas le droit d'en parler.
Et vous, comment vous connaissez Raymond ?
L'appartement où vous êtes était à ma tante. J'ai passé toute mon enfance. Je vous trouve très belle.
Mais vous êtes un petit peu jeune, Pierre.
Je suis une femme mariée.
Bon, on va à Londres ? De twist. Allez, tout le monde se met en place là. Bon, les petits devant. Tiens, voilà.
De tous côtés, on n'entend plus.
Voilà. Allez, c'est parti. Prêt pour twister les enfants. Allez, c'est parti. On se concentre, il y a tout le premier qui le regarde. Et là, tous.
c'est une danse au rythme merveilleux. À danser seul à quatre ou bien à deux. Pas besoin de tout regarder.
Voilà un petit extrait du film À la vie de Jean-Jacques Zilberman, avec entre autres Julie Depardieu, Joanna Ter Stegen et Suzanne Clément, l'histoire de trois femmes qui se sont rencontrées à Auschwitz et qui se retrouvent après la guerre à Berck-Plage, où le mode est au twist. Un écho à la chanson de Jean Ferrat que vous avez mis en exergue votre livre, Emmanuel Dain, que j'aimerais que vous nous fassiez la lecture.
On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter ? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été, je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez.
On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez.
Emmanuel Dain, est-ce une façon pour vous de dire que l'écriture littéraire, voire poétique, est une des manières privilégiées aujourd'hui, en cette époque des derniers témoins et de leur disparition annoncée, de construire la maison du souvenir que j'ai évoquée au début de l'émission, un complément à l'histoire des historiens? Comme vous le dites en une formule percutante, raconter une histoire n'est pas faire de l'histoire, mais ce n'est pas non plus raconter des histoires. Comment avez-vous cherché à twister les mots? N'y a-t-il pas un lien entre cette volonté littéraire qui semble vous animer et les écrivains romanciers qui nous ont raconté la guerre, les guerres, Emmanuel Dain?
Je ne sais pas si j'ai twisté les mots. D'abord, c'est un peu démodé de twister les mots maintenant, mais en tout cas, j'ai essayé d'écrire avec une écriture d'aujourd'hui, sans prétention littéraire. Je ne revendique absolument pas le fait que mon livre soit un objet de littérature. Simplement, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice mémoriel, tout simplement. Et pour tout vous dire, si je devais trouver une justification à mon livre, je l'ai trouvé dans les échanges que j'ai eus avec le cinéaste Pierre Sauvage, qui a, dans les années 80, réalisé un film qui s'appelle Les Armes de l'Esprit, qui parle donc du sauvetage des Juifs au Chambon-sur-Lignon. Et lui m'a dit assez justement, et j'en parle longuement dans mon livre, que finalement le processus mémoriel fait que la tragédie juive va se résumer dans les années qui viennent sur le plan mémoriel, pas sur le plan historique, mais sur le plan mémoriel, à un signifiant qui s'appelle Auschwitz. Et lui, en bon pro de l'image cinématographique, dit finalement on aura besoin à l'avenir de la pureté du blanc de l'histoire du Chambon-sur-Lignon pour sonder la profondeur du noir d'Auschwitz. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement percutant comme image, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, tout simplement.
Vous pouvez développer cette histoire du blanc et du noir, parce que je trouve que ça raconte et ça rejoint la question du silence et de la parole. Il y a beaucoup de silence autour du Chambon, il y a eu beaucoup de silence, il y en a peut-être encore. Il y a des gens qui se sont tus pour permettre le sauvetage, mais après il y a eu aussi beaucoup de silence. Est-ce que c'est un peu de ce silence que vous parlez quand vous parlez du blanc ?
Je parle du silence. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le blanc silencieux et modeste des gens qui ont organisé ce sauvetage et qui se sont tus, simplement parce que, comme me l'a suggéré Alain Finkielkraut, que j'ai interviewé sur ce sujet, finalement, il m'a parlé ni plus ni moins d'un truc qui s'appelle la Common Decency d'Orwell. C'est-à-dire, effectivement, dans la vie, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Et finalement, dans cette espèce de conspiration du bien, il y a peut-être rien de plus que ça à trouver. Donc, effectivement, là, on est dans le blanc. Et puis, finalement, il y a sans doute de ma part l'espoir que cette belle histoire et que ce blanc bien pur soit source d'inspiration aujourd'hui, ici et maintenant.
Alors, vous avez dit le twist n'est plus à la mode et que vous n'avez pas twisté les mots, mais j'ai l'impression que le twist signifie cette permutation des lettres qui sont possibles justement parce qu'il y a du blanc entre les lettres, il n'y avait pas de blanc, il n'y aurait pas de liberté des lettres, donc il n'y aurait pas de possibilité de mots, de langage et de littérature. Et je me suis dit que le psychanalyste que vous êtes n'a pas pu être insensible au fait, par exemple, que dans le texte de Jean Ferrat que vous avez mis en exergue votre livre, la phrase « que le sang sèche vite », je l'ai entendu, alors la phrase exacte c'est « que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire », une sonorité qui rapproche le sang sèche vite du nom d'Auschwitz. Et je me suis dit qu'il y avait aussi dans le twist des lettres qui n'étaient pas innocentes et sur ce signifiant qui s'appelle justement Auschwitz, pour souligner aussi que ce n'est pas innocent de la part de Jean Ferrat de parler d'Auschwitz dans la mesure où son père y a été déporté et jamais revenu.
Évidemment, l'histoire de Jean Ferrat, la biographie et les origines familiales de Jean Ferrat ne sont sans doute pas neutres dans tout cela, mais on pourrait parler effectivement aussi de cette glaciation de l'époque gaulienne. Cette chanson, et je le rappelle dans mon livre, a été interdite d'antenne dans cette maison, à l'ORTF à l'époque, précisément parce que la réconciliation française ne pouvait admettre que l'on puisse parler de ces sujets-là. Donc une interdiction d'antenne, c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre. C'est aussi un drôle de silence. C'est aussi un drôle de silence, puisque vous m'interrogiez sur les silences. Il y a le silence des sauveteurs, mais il y a aussi le silence
de la censure,
de ce qu'on pourrait appeler, pour utiliser une métaphore connue, la chape de plomb. Il y a aussi ça.
Et là, ce livre-là est une façon de faire le tikkun, comme on dirait en hébreu, c'est-à-dire la réparation de ce silence de la censure sur cette partie de l'histoire.
Alors, oui et non, puisqu'effectivement, depuis, quand même, le silence a été levé. Le silence a été levé, on va dire, dans les années 80. Donc, je peux pas considérer qu'il y ait un silence autour de l'histoire du Chambon. Mais, en tout cas, si on peut le mettre et en lumière, et effectivement faire un peu de bruit autour de cette histoire aujourd'hui, en spéculant ou en espérant qu'elle puisse avoir un caractère inspirant, c'est en tout cas le vœu de l'auteur que je suis.
Oui, alors vous dites justement, votre vœu le plus cher, vous l'écrivez, c'est que cette histoire nous inspire aujourd'hui dans nos pensées, nos croyances, nos opinions et nos actes. Voilà un vœu programmatique. Comment voyez-vous cette inspiration à l'œuvre, Emmanuel Dain?
Ben, à chacun de d'y voir comment il peut le mettre en œuvre. Il y a mille et une façons de mettre le bien en œuvre. Après, chacun choisit la façon de le faire. Vous savez, il y a une vraie question éthique autour de cette histoire. Je pense notamment à la CIMAD. La CIMAD, ça veut dire le comité intermouvement auprès des évacués. La CIMAD a été créée en 1938 pour organiser le sauvetage des Juifs d'Alsace. Bon, aujourd'hui, la CIMAD est en pointe dans l'accueil des migrants. Vous avez là encore une grande, grande ligne de fracture entre des gens qui considèrent que les actions de la CIMAD aujourd'hui, auprès de l'Aquarius, etc., sont en phase exacte avec ce pourquoi la CIMAD a été créée en 1938, et des gens qui considèrent que c'est un dévoiement complet de cette organisation-là. En tout état de cause, quand on parle d'inspiration et effectivement du bien en action, le bien en action ne va pas de soi, et il y a mille et une façons de mettre le bien en action, et ce bien en action peut aussi être polémique. C'est ce que je voulais dire avec l'exemple de ce qu'est la CIMAD aujourd'hui.
D'ailleurs, dans votre livre, vous n'occultez pas, justement, vous ne faites pas le silence sur l'ensemble des controverses que le Chambon a pu provoquer de la part à la fois des descendants, des acteurs. Et vous soulignez, je pense que c'est important, il n'y a pas de naïveté dans ce bien. C'est une conspiration du bien lucide, si on peut dire.
Oui, c'est exactement ça. Il y a une grande lucidité. Les conflits mémoriels sont liés, on l'a vu effectivement, à cette ligne de fracture sur la résistance armée et le pacifisme. Il se fait que le pasteur Trocmé, dans les années 50, a été un militant du pacifisme et qu'il a utilisé des moyens de militantisme qui pouvaient être éthiquement tout à fait contestables, mais qui étaient pour la bonne cause.
Et aujourd'hui, au Chambon-sur-Lignon, il y a un lieu de mémoire. Il y a un musée, c'est peut-être aussi une façon de construire la mémoire avec ses mains. Quelle est la place de ce lieu de mémoire dans cette inspiration dont vous nous parlez?
C'est 10 à 15 ans de bataille pour que le lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon est ouvert. Il a ouvert en 2014, ça a été très compliqué et il a eu la grande intelligence justement d'être un lieu de mémoire, on devrait dire au pluriel, puisqu'effectivement il réunit toutes ces mémoires, que ce soit la mémoire de la résistance civile ou la mémoire de la résistance spirituelle et également de la résistance armée. En ça, il est assez habile. Mais ça n'allait pas de soi d'ouvrir ce lieu de mémoire. Certains y ont vu une œuvre de pure exploitation touristique, on va dire. En tout cas, le lieu est là et visiblement, vu son succès et vu le nombre de personnes qui viennent quelquefois rechercher l'origine d'un grand-père, d'une grand-mère, etc., je pense que c'est un grand succès et que c'est un lieu particulièrement important dans ce petit village.
Merci Emmanuel Dain pour ce partage et cet élan d'optimisme, pour ce plaidoyer pour la littérature de la mémoire. Merci pour ce livre qui me rappelle cette phrase du Baal Shem Tov, souvent citée par Eliane Amado Lévy-Valency. C'est dans le souvenir que réside le secret de la rédemption. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Imago, Le village des justes, le Chambon-sur-Lignon de 1939 à nos jours. Un livre qui se lit comme un roman, et ce n'est pas une formule. Un livre qui fait du bien à l'âme, au cœur et à l'intelligence. Merci encore Emmanuel Dain.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Guillaume Ledu, à la réalisation, comme d'habitude, d'Annie Journeau. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.